à la découverte de la création sonore et radiophonique. Une émission de 48 FM proposée par Guillaume Delorme. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée à la création sonore et radiophonique. Voilà, deuxième émission de ce nouveau concept sur 48 FM. Et ce soir, nous vous proposons de poursuivre la découverte de la série de fiction de François Perrache et Sabine Zovigian, produite par arteradio.com, qui s'intitule « De guerre en fils ». Je vous rappelle que cette série a obtenu le prix Phonurgia 2017 de la fiction radiophonique, le prix Italia 2017 de la meilleure fiction radiophonique et le prix Premio Ondas International de Radio 2017. Le 2 octobre 1961, en pleine guerre d'Algérie, le policier Georges Perrache est abattu à Paris par le FLN. Le 17 octobre, la police réprime une manifestation pacifique et tue près de 200 Algériens. Le 13 novembre 2015, François Perrache, petit-fils du policier tué, veut aller manger un boboun au petit Cambodge. À la fois enquête intime, fiction documentée et tragicomédie, De guerre en fils joue du feuilleton radio pour ouvrir la boîte aux secrets, ceux de l'histoire comme ceux d'une famille. Les précédents épisodes, vous pouvez les écouter en podcast sur notre site internet 48fm.org. Et ce soir, nous commençons avec le quatrième épisode, le 17 octobre, sans rendez-vous. Le rappeur Medine et le journaliste Patrick Penaud, célèbre figure de Rendez-vous avec X sur France Inter, s'invitent dans l'histoire.
Quand j'ai entamé des recherches sur mon grand-père, je ne savais pas ce que j'allais trouver. J'avançais à tâtons, d'archives en témoignages, et puis... j'ai trébuché sur un massacre raciste. 17 octobre 1961. Mon grand-père était mort 15 jours avant.
De guerre en fils. Un feuilleton de François Perrache.
Épisode 4.
17 octobre 1961. Cette date de l'histoire avec son grand H, elle fait maintenant partie de mon histoire. Il fallait la prendre en charge, mais ça me dépassait complètement. J'avais vraiment besoin d'un spécialiste. Et il est arrivé.
Je vois un coup d'eau.
Sans prendre rendez-vous.
Allez, ça tourne ?
Ça tourne.
Automne 1961. La France et l'Algérie, on le sait, sont en pleine négociation pour l'indépendance. Il faut imaginer un véritable climat de guerre, et pas seulement en Algérie, mais aussi en métropole, et notamment au cœur de Paris. Le FLN accentue la pression sur les autorités en visant particulièrement les policiers. Rien que durant l'été 61, une dizaine d'entre eux ont été tués. En réaction, le préfet, Maurice Papon, va renforcer la répression.
Et souvent, cette répression est sous-traitée, si on peut dire. Elle est confiée aux forces de police auxiliaires, qui sont constituées d'Algériens placés sous l'autorité de la préfecture.
Ouais, les Bleus, les FPA, comme on appelle parfois ces harkis de Paris.
FPA.
Ils sont commandés par le capitaine Montaner.
Il y a le capitaine, il m'a lancé deux gifles, là. Une là.
Ce sont eux qui effectuent l'essentiel des basses œuvres de la préfecture. Les Algériens sont donc traqués par la police, et il y a de nombreux morts et blessés parmi eux pendant tout l'automne.
La police d'un côté et le FLN de l'autre qui impose violemment son emprise sur les Nord-Africains de la capitale en prélevant un impôt obligatoire.
Ouais, une sorte de racket, quoi. Et le FLN n'hésite pas à punir, voire à éliminer les récalcitrants.
Tout ça, je commence à le comprendre. Mais cette répression policière, elle débute bien avant le 17 octobre, n'est-ce pas? Donc comment est-ce qu'on arrive au point culminant du 17?
Je vous en prie, monsieur Perrache, n'allons pas trop vite. Fions-nous à la chronologie, hein, pour comprendre le lien entre la grande histoire, celle de ce qu'on a appelé la bataille de Paris, et la petite histoire.
Celle de la mort de mon grand-père.
Oui, malheureusement. On vient de parler du contexte particulièrement tendu entre la police et les FLN à partir de la fin de l'été 61. À l'automne, les choses s'accélèrent encore. Le 28 septembre 1961, quelques jours avant la mort de Georges Perrache, un jeune brigadier, Jean Demoin, meurt dans un attentat également revendiqué par le FLN. Le matin du 2 octobre, les obsèques de ce brigadier ont lieu dans la cour de la préfecture de police en présence du préfet Papon, au moment même où est perpétré l'attentat contre le bureau du SAT-FMA où travaillait votre grand-père.
Maurice Papon aurait donc appris la mort de mon grand-père pendant les obsèques du brigadier Demoin ?
Eh bien, selon toute vraisemblance, oui. Et c'est durant cette cérémonie en hommage au brigadier Demoin que le préfet Papon va faire un discours particulièrement musclé. Discours dont la presse retiendra surtout une phrase. « Pour un coup reçu, vous en porterez 10. Dans tous les cas, vous serez couvert. » Plusieurs versions de cette phrase terrible circulent dans la presse.
Pour un coup reçu.
Un coup pour 10.
Vous en porterez 10.
Nous rendrons 10 coups pour 1.
Dans tous les cas, vous serez couvert.
Quoi qu'il en soit, la phrase a bien été prononcée au moment même de la mort de Georges Perrache. Et elle sera immédiatement interprétée comme un blanc-seing du préfet ouvrant la voie à des répressions aveugles de la part des policiers parisiens qui sont, il faut bien le dire, à bout de nerfs.
Il faut que les autorités tiennent compte du fait que certains éléments du personnel sont actuellement susceptibles d'accomplir des actes regrettables pour venger les collègues tombés à la suite de lâches attentats.
Regardez, je vous ai apporté les journaux de l'époque. Hein. Par exemple, le Figaro du mardi 3 octobre.
Un officier de police tué et deux employés de la PP, là oui, de la préfecture de police, grièvement blessés par 3 tueurs FLN.
Remarquez que votre grand-père, Georges Perrache, fait la une de toute la presse. Le Monde dresse un bilan des morts de l'été dans les rangs de la police.
Un nom, une victime vient s'ajouter au martyrologue. Un nom, une victime de trop.
Même la presse régionale en parle, le Dauphiné libéré par exemple.
Un policier originaire de Grenoble tué à Paris.
Tenez, regardez, c'est aussi le Parisien libéré.
Le mort de trop.
Il y a même la photo de votre grand-père en une. La ressemblance physique avec vous, François, est d'ailleurs assez nette. Hein. Même corpulence, on dirait, même lunettes.
Oui, et même calvitie.
C'est donc dans un climat de forte tension hein, qu'ont lieu le 5 octobre les obsèques de votre grand-père. Remarquez que Maurice Papon a souhaité que la cérémonie n'ait pas lieu, comme pour les précédentes victimes, à l'intérieur de la cour de la préfecture, mais plus discrètement et sans la presse, à la maison de santé des gardiens de la paix, où le corps de Georges Perrache avait été transporté après l'attentat. Ces obsèques publiques à répétition de policiers démoralisaient les troupes.
Les nerfs sont à fleur de peau.
Le préfet sera présent à la cérémonie en l'honneur de votre grand-père pendant 15 minutes à peine, hein, durant lesquelles il se contente de saluer la famille.
Dont mon père qui était présent.
Oui. Le préfet décorera aussi, à titre posthume, la victime.
Médaille d'or de la police pour acte de courage et de dévouement.
À l'issue des obsèques, Maurice Papon se rend immédiatement à un comité interministériel de sécurité. Les syndicats de police réclament des mesures fortes de la part du préfet.
Nous avons demandé le quadrillage.
Ah, ils ne seront pas déçus. Hein.
Armes, couvre-feu, etc. Chose que nous, syndicats, n'aurions jamais dû demander.
Dès son retour à la préfecture, Maurice Papon va en effet mettre en place une disposition exceptionnelle. Il décrète un couvre-feu imposé aux Algériens dans une circulaire rendue publique le 6 octobre.
Dans le but de mettre un terme sans délai aux agissements criminels des terroristes algériens, des mesures nouvelles viennent d'être décidées par la préfecture de police. En vue d'en faciliter l'exécution, il est conseillé de la façon la plus pressante aux travailleurs algériens de s'abstenir de circuler la nuit dans les rues de Paris, la banlieue parisienne, et plus particulièrement de 20h30 à 5h30 du matin. Le préfet de police a décidé que les débits de boissons tenus et fréquentés par des Français musulmans d'Algérie doivent fermer chaque jour à 19h.
On doit manifester contre le couvre-feu. On va faire cette manifestation.
Vous avez le droit de prendre le bus ou d'aller à pied, prendre le taxi, pourvu que vous soyez là-bas à 8h30. C'est une manifestation contre la violence. C'est une manifestation de pacifique. On va simple comme ça, des gosses, des femmes, des enfants, on a un ordre pour tout le monde. Bon, vous êtes tous contents. Qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation? Vous avez quelque chose à dire? Bon, à vous la parole.
17 octobre 1961.
Algériens de France, dans les rues, nous allons descendre, protester contre leurs lois discriminatoires. Investissons les ponts et leurs centres giratoires. Embarqués dans un cortège pacifique, nous réclamons justice, justice pour nos droits civiques. Mais la police ne l'entend pas de cette oreille. En cette période, nous sommes un tas de rats rebelles. Marchons en direction du pont Saint-Michel, nous verrons bien quelle sera l'issue de cette querelle. Une fois sur la berge, j'aperçois le comité d'accueil qui souhaite faire de ce pont notre cercueil. Les camps s'observent et se dévisagent. Un silence de mort s'installe entre les deux rivages, puis une voix se lève.
À bas le couvre-feu!
Et ouvre le feu! La première ligne s'écroule et commence la chasse à l'homme. Je prends mes jambes à mon cou comme un pur sang, je galope.
Pur sang, je galope.
Je galope. Mais le pont est cerné, nous sommes bernés dans une prison sur pilotis. Nous sommes enfermés, pas une, pas deux, mais une dizaine de matraques viennent me défoncer le crac, crac, crac sous mon anorak. Ma bouche s'éclate bien sur les trottoirs, leur bouche s'esclave bien grande de nous voir. Nous allons voir si les rats savent nager. Au fond de la Seine, vous ne pourrez plus vous venger. Inconscient, gisant dans mon propre sang, les brigadiers en chef par tous les membres me saisissant. Amorce ma descente, là où passent les péniches, s'assure de ma mort en frappant ma tête sur la corniche. Je tombe comme un déchet au vide ordure. Dans la chute, violemment, ma nuque a touché la bordure. Liquide, poignardant tous mes orifices, le fleuve glacial, un bûcher chaud pour mon sacrifice. Monsieur Papon a jugé bon de nous noyer. Aucun pompier pour étouffer le foyer. On n'éteint pas des braises avec un verre de gasoil, sans penser aux tirailleurs et combattants zouaves. Mon cadavre, emporté par le courant, sera repêché dans les environs de
dans
Rouen.
Les environs de Rouen.
D'étranges nénuphars flottent sur la Seine. Séquence long métrage, les yeux plongés dans la Seine.
Séquence long métrage, les yeux plongés dans la Seine.
Les gars des eaux pour les gens des humains eaux. Déshumanisés, les basanés ne font pas de vieux eaux. D'étranges nénuphars flottent sur la Seine.
Flottent sur la Seine.
Séquence long métrage, les yeux plongés dans la Seine. Un saut de pisse dans lequel on noie des rats. Octobre noir ratonnade sous les boulevards. Médine.
Alors ce qu'il faut retenir, et c'est essentiel, c'est le nombre de morts algériens estimés. 200. Et ce même 17 octobre, dans la journée, le FLN a publié un communiqué de revendication qui revient sur l'ensemble de la période septembre-octobre pour justifier les attentats. Et votre grand-père, Georges Perrache, y est cité nommément.
Et
malheureusement, son nom apparaît aussi dans un rapport interne du FLN qui explique le choix des policiers visés.
Et ?
Eh bien, écoutez, pardonnez-moi, c'est délicat, mais le rapport précise, je cite...
Seuls les policiers tortionnaires sont châtiés.
Que seuls les policiers tortionnaires sont châtiés.
À suivre sur arte-radio.com.
Seuls les policiers tortionnaires sont châtiés.
Vous êtes toujours sur 48FM dans cette émission à la découverte de la création sonore et radiophonique. Et on poursuit notre découverte de la série De Guerre en Fils, une série de François Perrache et Sabine Sauvigan, produite par arteradio.com, et c'est maintenant le cinquième épisode, le téléphone arabe. D'un interlocuteur à l'autre, le portrait de Georges Perrache se trouble. Héros ou salaud?
Et ton truc pour Arte, il serait pour quand?
Elle, c'est l'or.
On aimerait qu'il soit prêt et diffusable en octobre.
L'aîné de mes trois sœurs.
D'accord.
Parce que ce sera l'occasion de... Parce que c'est autour notamment... notre grand-père, il est mort début octobre de 61.
Oui.
Et en fait, c'est en prélude à un événement qui avait lieu le 17 octobre 1961.
Ouais. C'est les morts qui sont passés par-dessus le truc, là.
C'est ça, il y a plus de 200...
Les 17 mecs qui sont passés sur le canal Saint-Martin.
Il y a quelques années, j'étais un peu comme elle. J'ignorais tout, ou presque, de notre grand-père. Et du contexte historique et politique qui entourait son assassinat.
Ah, pas 17, non, il y en avait plus de 200.
Ah oui, d'accord.
Qui ont été massacrés par les policiers 200, dans la cour de la préfecture. 200. Oui, au moins, ouais.
Ah ouais.
Je savais pas encore que sa mort avait été, sinon l'élément déclencheur, du moins un catalyseur de ce massacre.
Ah ouais.
Je m'épargnais par là même un certain masochisme.
De Guerre en Fils.
Un feuilleton de François Perrache.
Épisode 5.
Seuls les policiers tortionnaires sont châtiés.
Certaines phrases vous sautent à la gueule et vous attrapent à la gorge comme un chat enragé.
Tortionnaire, du latin médiéval tortionarius, de tortio, torture.
Tortionnaire.
Personne qui torture pour arracher des aveux,
châtier.
Ou par pur sadisme.
Seuls les policiers tortionnaires sont châtiés.
Ces mots étaient tout droit sortis d'un rapport interne envoyé par le responsable FLN de Paris au comité fédéral. C'est eux qui dirigeaient l'organisation, dans la clandestinité depuis Berlin. Dans un communiqué publié le jour même de la manifestation du 17, le FLN parisien justifiait le choix des policiers et des services visés.
Il faut être naïf pour croire que les SAT-FMA aient été institués pour aider les Algériens.
Il citait en particulier le SAT-FMA où travaillait mon grand-père.
Quant à l'officier de police Perrache, cinquième fonctionnaire du SAT, exécuté par nos commandos, nous devons informer l'opinion qu'il s'occupait davantage de renseigner la police sur les activités du FLN que de trouver du travail à nos compatriotes. Plusieurs mises en garde avaient été adressées à Georges Perrache. En vain.
À la question de savoir si mon grand-père pouvait avoir été abattu par hasard,
on ne peut a priori exclure que l'OPA Perrache pouvait être seul visé.
La réponse semblait être non.
Et que ses collègues n'ont été abattus que pour supprimer des témoins gênants.
C'est ce qu'en disait le rapport d'enquête de police.
On peut également penser que le FLN, en réussissant un coup de main contre un centre SAT, sans distinction de personnalité, a voulu provoquer aussi bien auprès des FMA que des Français métropolitains le choc psychologique recherché depuis le début de la rébellion.
On peut également le penser.
Moi, je sais plus quoi penser de Georges Perrache. Il m'est arrivé de scruter les trois photos en papier jauni que j'ai de lui, jusqu'à avoir l'impression qu'elles s'animent. Trois photos, pas une de plus, pour essayer de me faire une idée de mon grand-père. Là, c'est lui en Guinée. Il est en short, il lit son journal en fumant la pipe. C'est tout ce qui me reste, cette photo-là, de 5 cm sur 8. C'est tout ce qui me reste de son séjour de plusieurs années passées en Afrique. Mon grand-père y était parti juste après son divorce, vers 1950. Il a occupé plusieurs postes dans l'administration coloniale. Il avait laissé mon père en France, où il sera élevé par sa grand-mère.
Oui, allô?
Ouais, François, c'est Sabine, ça va?
Ouais, ça va.
Dis-moi, on est avec Sam, là, on bosse sur l'épisode 5, et on en est au moment où tu dis Georges a occupé plusieurs postes dans l'administration coloniale.
Ouais.
On disait que tu pourrais peut-être un peu développer, enfin, c'est un peu obscur. Tu sais un peu ce qu'il fabriquait en Afrique?
En fait, ce que je sais, si tu veux, c'est que c'est en 1958, il s'est retrouvé comptable du port de Conakry. Il avait rien à y faire.
Okay.
Et 58, c'est précisément l'année d'indépendance de la Guinée. Donc, le plus probable, c'est ce que me disaient les historiens, c'est qu'il devait être l'équivalent, tu vois, d'un ce qu'on appelait un correspondant du SDEC, qui était l'ancêtre de la DGS, une espèce de barbouzard africain, quoi, si tu veux. Voilà. Et après, il va rentrer okay. en 60 pour partir bosser à la préfecture de Paris.
Ok, bon, on va essayer de caler ça quelque part.
Georges rentrait parfois à Grenoble pour voir son fils, mon père. Et du souvenir de ses rares séjours, je n'ai pu obtenir que 3 anecdotes. Pas une de plus.
Pas une de plus.
1956. Mon père, Jean-Pierre, accompagne son père Georges à la gare. Sur le parvis, un automobiliste est en panne. Mon grand-père l'aide en poussant sa voiture. Qui finit par redémarrer. Mon père est très fier. Georges est très fier aussi.
Vous voyez, vous ne pourrez pas dire qu'on n'est pas sympa dans la police.
1959. Mon grand-père est en train de se raser. Mon père, qui a une dizaine d'années à l'époque, en profite pour attraper l'arme de service de son père. Il joue à se mettre par défi le canon du pistolet sur la tempe. Pensant l'arme déchargée, mon père arme le chien du Manurin 9 mm et vise cette fois le plancher plutôt que sa tempe.
Jean-Pierre !
1960. Dans le métro parisien, un probable militant FLN montre à mon grand-père un morceau de tissu aux couleurs du drapeau national algérien. Morceau de tissu qu'il tient au creux de sa main.
Algérie, en vert et blanc, étoilé croissant.
Mon grand-père aurait alors écarté le pan de sa veste pour laisser voir son arme de service, en lui disant
« Vous avez de la chance, vous vous mouchez dans de la soie. »
Trois anecdotes, pas toutes glorieuses, et trois photos en tout, pour éclairer une vie entière. Rien qui ne mette en lumière les raisons précises de son assassinat. Il restait une personne qui pouvait m'apporter sa part de vérité sur cette période, et sur un éventuel souvenir du cas de Georges Perrache. Son chef.
Maurice.
Maurice Papon.
Papon.
Maurice Papon. C'était il y a 10 ans. Et Maurice Papon, 95 ans, condamné en 1998 à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité, puis libéré pour état de santé en 2002, finissait ses jours dans la petite ville de Seine-et-Marne où il était né. Assigné à résidence, dans un modeste pavillon de la rue Arthur Papon, du nom de son père, maire de la commune avant lui. C'est un jeu d'enfant de joindre l'avocat de Maurice Papon. Il faut juste un téléphone.
Cabinet de maître... Bonjour.
Oui, bonjour madame. Je souhaiterais parler à maître... C'est pour une demande personnelle, merci. L'assistante doit penser que je suis un client fortuné en instance de divorce. Et elle transmet mon appel à l'avocat sans poser de questions. L'avocat est aimable. Il me demande de préciser l'objet de ma demande. Je victimise un peu. Je lui explique en deux phrases être le petit-fils d'un policier tué dans un attentat FLN en octobre 61, que mon grand-père a été décoré lors de ses obsèques par Maurice Papon, et que j'aimerais savoir si l'ex-préfet a le moins de souvenirs de cet événement. L'avocat est aimable. Il accepte de transmettre un courrier de ma part à l'ancien préfet. L'avocat est très aimable. L'avocat est vraiment très aimable. Avant de raccrocher, il a ces mots.
Monsieur Papon, si son état de santé le lui permet, vous répondra sans doute avec plaisir, dans la mesure où son passage à la préfecture de police de Paris a été une des périodes les plus heureuses de sa vie.
Mon courrier restera sans réponse.
Un dernier mot, monsieur Papon. Face à l'histoire, face à vous-même, le matin ou le soir, dans votre miroir, vous êtes content de vous.
On n'est jamais content de soi parce qu'on n'a jamais fini de faire son devoir sur cette terre telle qu'elle est et avec les hommes tels qu'ils sont. Mais si j'avais à refaire ce que j'ai fait, je le referais.
Maurice Papon mourra quelques mois plus tard et sera enterré dans le cimetière de Gretz-Armainvilliers avec sa Légion d'honneur qui lui avait pourtant été retirée suite à sa condamnation. Thank you. Dans les relations père-fils, la haine et l'amour coexistent souvent. Et vis-à-vis de sa patrie, le rapport peut être tout aussi ambigu. Parce que l'amour de la patrie peut nous pousser au meilleur comme au pire. Avant la période Papon, il y avait une phase brillante à la vie de mon grand-père. La légende familiale voulait que Georges Perrache ait appartenu pendant la Seconde Guerre mondiale à un important réseau de résistants, lorsqu'il vivait à Grenoble. Il était alors en lien avec un certain Henri Grouès, qui assurait en moto la liaison avec les maquis en montagne.
Allô ?
Oui, bonjour, c'est à nouveau François Perrache à l'appareil.
Oui ?
Je retentais ma chance pour essayer de parler à l'abbé au sujet de mon grand-père.
Henri Grouès, entre-temps, était devenu l'abbé Pierre.
Oui, rappelez-moi le nom de votre grand-père.
Georges Perrache.
Ah, c'est ça. Ne quittez pas. Hein.
Merci beaucoup.
C'était il y a 10 ans.
Allô ?
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour.
Mon nom est François Perrache.
Oui.
Et je suis le petit-fils d'un monsieur qui s'appelait Georges Perrache.
Et qu'on appelait la plume.
J'ai toujours cru que c'était une légende.
Non, c'est bien vrai. Je n'ai pas eu avec lui à travailler, j'allais dire quotidiennement. Il est devenu un des piliers autour duquel se réalisaient beaucoup d'actions dans lesquelles il était compétent quand il s'agissait de faire de faux papiers. Passeport ou carte d'identité dont les modèles vierges originels étaient dérobés par des fonctionnaires amis résistants dans la préfecture ou dans certains commissariats de police. Donc le rôle de celui que nous appelions la plume entre nous, parce que je crois, mais j'en suis pas très sûr. Mais autant que
il m'a parlé pendant près de 20 minutes. De la boutique près de la cathédrale de Grenoble, où Georges vendait du matériel de bureau, et où il fabriquait clandestinement de faux papiers. De la façon dont les choses s'organisaient autour de lui. La mémoire d'Henri Grouès était intacte et d'une vivacité étonnante. Elle apportait un peu de lumière dans mon enquête, à un moment où, je dois l'avouer, le moral en avait pris un coup. Mais plus j'avançais, plus le portrait de mon grand-père, au lieu de se préciser, se troublait. Homme à abattre pour les indépendantistes algériens, et pourtant lui-même résistant à une autre époque. Héros et salaud. On était comme prisonniers d'un labyrinthe. Mm-hmm. Maurice Papon, l'abbé Pierre, mon grand-père et moi.
Un labyrinthe.
Je savais plus comment en sortir. Il me fallait quelqu'un qui puisse me donner une clé de lecture de ce parcours paradoxal.
Une clé ?
Ouais, j'aurais pu en parler à ma psy. Mais j'ai préféré appeler Sylvie.
Oui ?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est François Perrache à l'appareil. Je passe un peu ma vie au téléphone en ce moment.
Oui ? Ah oui, oui, bonjour, ça va ?
Oui, très bien.
Sur le coup, je me suis dit, qui c'est ? Mais oui, mais je me souviens de toi, bien sûr. Ça va ?
Bah, très bien. Et toi ?
Bah ouais, ça va. Qu'est-ce que tu deviens ?
Oh bah justement, tu devines que si je t'appelle, c'est que j'ai besoin de toi. C'est Sylvie qui m'a permis de remonter le fil d'Ariane. Sylvie Thénault, professeure d'histoire contemporaine, chercheuse au CNRS, spécialiste de la guerre d'Algérie.
Voilà, alors raconte-moi un peu.
Ouais, bah non, mais faudrait que je te rappelle un autre moment où je te dérange pas trop, mais l'idée, je te la fais courte. Et un peu comme la première fois où je l'ai rencontré, un peu comme un étudiant d'histoire en première année, je me suis perdu en circonvolution.
Donc, oui, et l'idée, c'est pas de faire l'historienne experte qui raconte l'histoire, c'est plutôt de dire... comment moi, je suis intervenue là-dedans, comment on est entré en contact, comment, comme historienne, je me situe par rapport à ça, c'est ça l'idée ?
Alors ça peut être parfait, c'est-à-dire qu'après, on verra, mais je pense qu'il y aura peut-être une... peut-être qu'on fera une petite mise en scène, tu vois, genre on s'enregistrerait, on se rencontre, on se fait la bise pour voir qu'on se connaît, et que l'idée, je pense, on est en train de l'écrire, ce serait de te faire intervenir avec moi, peut-être au tout dernier épisode, pour justement un peu boucler tout ça.
D'accord.
À suivre.
Boucler l'histoire avec une historienne, c'était plutôt une bonne idée.
Sur arteradio.com.
Sauf qu'elle n'arrête jamais de s'écrire, l'histoire.
Vous êtes toujours sur 48FM dans cette émission consacrée à la découverte de la création sonore et radiophonique. Et nous terminons notre découverte de cette fiction de François Perrache et Sabine Zovigian, produite par arteradio.com, qui s'intitule « De guerre en fils ». Ce dernier épisode, ce sixième épisode, s'intitule « Les fins mots de l'histoire ». François cherche le fin mot de l'histoire.
Les opposants à la loi travail vont-ils pouvoir manifester jeudi à Paris? L'incertitude plane toujours à 48 heures de l'échéance. Hier, le préfet de police a rejeté le parcours proposé par les syndicats et brandit une menace. Soit ils acceptent un rassemblement statique, place de la Nation, soit le défilé sera purement et simplement interdit. Les autorités mettent en avant le risque de nouveaux débordements. Les syndicats dénoncent une remise en cause du droit de manifester.
L'histoire ne se répète pas.
C'était il y a un peu plus d'une semaine, un couple de policiers tués au couteau chez eux à Magnanville dans les Yvelines. Hier, trois proches du tueur, Larossi Abala, ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir repéré des policiers dans plusieurs communes des Yvelines. Un double assassinat qui avait été revendiqué par le groupe État islamique.
L'histoire ne se répète pas, mais il arrive qu'elle bégaye.
Il faudra désormais l'appeler Kebranli Jacques Chirac. 10 ans après son ouverture, le musée des arts d'Afrique, d'Océanie et des Amériques est officiellement rebaptisé aujourd'hui.
De guerre en fils. Un feuilleton de François Perrache.
Épisode 6.
Quelle nouvelle pour toi ?
Quelle nouvelle pour moi ? Ça va, c'est la fin de l'année, bien chargée. Mais ouais, j'ai bien l'occasion de penser à toi ces jours-ci, là, parce que tu sais, je suis en train de finir mon feuilleton à la radio, là, sur ton père.
Ouais.
Donc voilà, je pense à toi un peu tous les jours. Mais
c'est bien.
Ouais.
Mais quand tu dis un feuilleton sur mon père... C'est sur la période. Il y a mon père dedans, mais il ne va pas se consacrer à mon père, si ?
Bah, tu verras.
Ah, je verrai.
Ça en parle beaucoup, si, bien sûr.
Ah ouais, d'accord.
C'est le dernier épisode.
Ah oui, d'accord, bien sûr.
Et au moment de conclure mon enquête, je me revois 10 ans plus tôt, quand je croyais en avoir fini avec ce travail de mémoire. C'est ce que j'ai cru longtemps. Je l'ai cru jusqu'au 13 novembre 2015. Aujourd'hui, 10 ans plus tard... Je me retrouve avec la même difficulté. Comment mettre un point final à cette histoire ?
Le plus dur dans une guerre, c'est de la terminer. Que la paix soit une valeur entérinée. Les vieux ennemis nourrissent une rancœur pour l'éternité. Si l'Algérie s'enrhume, c'est que la France a éternué. C'est que la France a éternué. Alors on dialogue en se raclant la gorge, en se rappelant les morts avec le tranchant du bord. On marque le score à chaque nouvel écorche, on compte les corps à chaque nouvel effort. Du martyr au harki, du colon jusqu'au natif, qui se bâtir pour sa patrie et qui pour ses actifs. Du pied noir au maquisard, on est tous en mal d'histoire.
Salut. Ça va ?
François, ouais. Ça va ?
Tu vas bien et toi ?
Ouais, très bien.
T'as trouvé sans problème ?
Sans problème.
Malgré les grèves ?
Ouais, Sylvie Thénault est historienne. C'est une grande spécialiste de la guerre d'Algérie. Elle m'a accompagnée depuis le début dans mes recherches.
Je vous suis.
Allez, c'est parti.
La radio, elle connaît. Elle est assez sollicitée par les médias ces derniers temps, à cause de l'actualité. On l'interroge souvent sur la notion d'état d'urgence. Parce qu'elle a étudié de près ce régime d'exception, qui a été créé en 1955, en pleine guerre d'Algérie, suite à une vague d'attentats du FLN. Au moment de finir mon enquête, c'est naturellement elle que j'ai appelée pour m'aider à faire le point.
Tu deviens quoi ?
Je deviens quoi ?
Ouais.
Je continue ma petite vie de comédien.
D'accord.
Et puis donc il y a cette histoire là qui m'est remontée.
Ouais.
Qui m'est remontée année avec les attentats quoi.
Ouais.
Les 13. Donc ça me lâche pas, tu vois, ça fait 10 ans et ça me lâche pas.
Ok François, ça tourne.
Sur cette histoire de mon grand-père, j'arrive pas à faire le lien en fait. Donc ouais, j'arrive pas à faire le lien entre le héros et le salaud quoi.
En fait, dans un parcours de vie, il y a des morceaux. Enfin, dans lesquels on peut essayer de mettre de la cohérence a posteriori, mais c'est pas forcément évident que la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale allait conduire à des positions anticolonialistes pendant la guerre d'Algérie. Mais les résistants au moment de la guerre d'Algérie, ils adoptent des positions extrêmement diverses. Si on prend Salan ou Massu, c'était des grands résistants et pourtant ils ont défendu l'Algérie française jusqu'au bout, Salan allant jusqu'à fonder et diriger l'OAS. Et eux, le fil conducteur, c'est le nationalisme. Et donc, quand on a résisté au nom de la grandeur de la France, au moment de la guerre d'Algérie, on peut se retrouver du mauvais côté du manche. Mais ça, c'est nous qui pouvons le dire. Il ne faut pas céder à ce que les chercheurs appellent l'illusion biographique, qui consiste précisément à essayer de reconstruire des parcours en fonction de, finalement, de jugements de valeur que nous pouvons porter aujourd'hui. Les acteurs en situation peuvent se sentir démunis pour savoir quelle est la bonne cause, et puis la bonne cause pour eux. Et puis, il ne faut pas négliger non plus dans les parcours de vie des données tout à fait prosaïques, du type « il faut gagner sa vie », sans que ce soit forcément politique. On peut être un policier qui fait son travail et pas être non plus convaincu de la nécessité de l'Algérie française, mais on fait son travail et on gagne sa vie.
Une des inquiétudes que j'ai eues, là, c'était de comprendre ce que faisait mon grand-père exactement. Là, j'ai bien compris comment il avait été tué, mais j'ai pas le pourquoi, vraiment. Enfin, en gros, mon grand-père, est-ce qu'il est mort par hasard, quoi ? C'est ça ma vraie angoisse.
Non, je pense pas qu'il soit mort par hasard, vraiment pas. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que sur le territoire français, il y a une guerre, d'abord. Ça, on l'oublie souvent. On a l'image de la guerre d'Algérie, c'est les parachutistes à Alger où ils crapahutent dans le bled. Mais il y a aussi une guerre sur le sol français qui est d'une nature vraiment très particulière parce qu'il y a du terrorisme FLN. Mais la principale mission de la Fédération de France du FLN, c'est d'organiser l'immigration algérienne, de la mobiliser pour la cause de l'indépendance. Donc le FLN en France, c'est une organisation clandestine qui, en gros, essaye de se fondre dans la masse. Et du coup, du point de vue policier français, pour lutter contre FLN, il faut pénétrer l'immigration algérienne. Ça veut dire qu'il faut identifier les gens, il faut les ficher, et il faut aussi les connaître de visu. Et une des missions du SAT-FMA, c'est d'assurer, d'être une sorte de guichet administratif où tous les Algériens vont venir faire leur démarche. Mais du coup, quand ils viennent faire leur démarche, on les identifie, on les connaît. Globalement, l'idée du SAT-FMA, c'est de faire un travail administratif qui va servir le travail policier d'identification des militants et des cadres de la Fédération de France du FLN. Ce qui n'exclut pas, par ailleurs, une part de violence avec des interrogatoires qui peuvent être violents dans certains cas.
Mais c'est ce que j'allais te demander aussi, qui est très délicate pour moi. C'est que dans le cas de mon grand-père, il y a une phrase qui est revenue, c'est « seuls les policiers tortionnaires sont châtiés ».
Ouais.
En citant tout le monde, dont mon grand-père.
Ouais. L'historienne prudente, en l'absence de preuves, se gardera bien de trancher sur la question de savoir si ton grand-père éventuellement peut être considéré comme un tortionnaire. Mais c'est évident que les lieux d'encadrement et de services administratifs sont aussi des lieux d'interrogatoire. Donc potentiellement, il peut y avoir effectivement pratique de violence. C'est de l'ordre du plausible absolu.
C'est de l'ordre du plausible absolu. Plausible. J'ai voulu en avoir le cœur net. J'ai traqué ceux qui avaient décidé et organisé l'assassinat de mon grand-père. 50 ans après les faits, j'ai finalement réussi à remettre la main sur l'assistante du chef du FLN parisien à l'époque. Autant dire qu'elle avait pas une envie folle de parler avec un petit-fils de flic.
Oh.
Mais elle a quand même fini par accepter de dîner avec moi.
Oh.
Ça a été un beau dîner.
Oh, oh.
Mais évidemment...
Oh, oh.
Elle a prétendu n'avoir aucun souvenir du cas de mon grand-père.
Non, je...
Oh. Alors j'ai posé la question directement à son patron, Ali Haroun. Ali Haroun était un des 5 membres du comité fédéral du FLN. C'est l'instance suprême de direction du mouvement qui était installée clandestinement à Berlin. Dans son livre « La 7e Wilaya », qui est connu pour donner des informations sur l'organisation du FLN à l'époque, il fait mention du cas de mon grand-père. « Je me permets de contacter dans le cadre de recherche personnelle que j'effectue... » Et il m'a répondu dans une longue lettre, pleine de détails, mais où il disait n'avoir aucun souvenir de Georges Perrache.
Quel pouvait être... Comment l'appelait-on ?
Est-ce qu'il avait réellement oublié ?
Quel était son nom ?
Quel était son nom ?
Je ne saurais jamais.
Avant de terminer, je voudrais vous dire que ces événements d'Algérie, reconnus aujourd'hui officiellement comme « guerre d'Algérie », se sont déroulés dans la plus grande et la plus inutile des violences. Certes, Des actes barbares ont été commis de part et d'autre. Mais avec cette circonstance absolutoire pour le peuple algérien qui, avec les moyens rudimentaires dont il disposait, poursuivait le but honorable auquel tendent tous les peuples épris de liberté. Son indépendance.
On peut vivre bien sans connaître son histoire familiale. On peut vivre bien, mais j'ai décidé un jour de vivre mieux. Son cadavre dans le placard.
Chut. L'idée d'un tabou, pour moi, elle doit toujours être précisément située. Là où elle n'est pas discutable, c'est évidemment au niveau individuel ou au niveau familial.
Au beau milieu de mon enquête, j'ai ressenti le besoin d'interroger mon père. De savoir ce qu'il pensait de cette histoire, lui qui n'en parlait jamais, tout en prétendant que le sujet n'était pas tabou.
Clairement, je pense que la famille est le lieu du tabou par excellence. Mais je ne suis pas sûre que ce soit valable qu'historiquement.
Je lui ai demandé de me raconter les souvenirs qui lui restaient de son père à lui. C'était il y a 10 ans. Mes relations avec lui n'étaient pas au beau fixe. C'était il y a 10 ans. J'allais avoir 30 ans et c'était un cap qui passait mal. Du fait de mon homosexualité, je savais, en tant que seul garçon de la fratrie, que je serais le dernier perrache de la lignée. Et la perspective de cette extinction m'angoissait beaucoup. Je vous préviens, le son est pourri. Je l'ai enregistré sur un petit dictaphone. J'aurais pu le réenregistrer avec du bon matériel, mais j'ai pas eu le courage de lui imposer ça. D'autant qu'il n'avait pas l'air très enthousiaste à l'idée que je ressorte cette histoire familiale.
Mais surtout, j'ai le souvenir de... Moi qui aimais beaucoup mon père pour ses faiblesses et son destin pas très heureux.
Ce jour-là, il m'a parlé pendant une heure et demie. Il a parlé de ce dont on n'avait jamais parlé et qu'il n'avait peut-être jamais raconté à personne. Il m'a parlé des obsèques, du corps de Georges exposé dans la cour, de la sonnerie aux morts, des grandes pompes et du décorum. Mais surtout, il s'est revu lui, marchant derrière le cercueil.
Mais ce qui m'a, dans ce moment-là, ce qui m'a le plus frappé, c'est que naturellement, à un moment donné, derrière le cercueil de mon père, je lui ai dit je t'aime, quoi. Et rien que d'y penser, si tu veux, c'est le résumé de l'amour inconditionnel, quoi. D'un père à son fils, d'un fils à son père, enfin, moi. Et ça, c'est magnifique.
J'arrive pas à finir cette histoire sur mon grand-père.
Ouais. Non, mais là, je peux pas t'aider.
Ben non, mais j'allais te demander pour ce que tu sais, pour ton métier,
ouais.
Ton expertise.
Ouais.
On en est où en France en 2016 sur la question algérienne de la guerre d'Algérie ?
Ça dépend qui. Il y a des gens pour qui c'est rien. Ça n'a jamais rien été. Ça, c'est quelque chose que je tiens toujours à rappeler, quoi. Évidemment, tous les anciens combattants, tous les ex-harkis, tous les Algériens vivant en France, enfin, il y a un nombre de gens concernés dans la société française qui est vraiment énorme. Et qui ont souvent le sentiment que rien n'est réglé, que c'est pas fini, que la guerre continue, qu'ils vont pas s'en sortir, etc.
C'est nous les Français d'Algérie, c'est nous les pieds noirs et hardis, qui attendons reconnaissance pour ce qu'on a fait pour la France. C'est nous les Français d'Algérie.
La Marseillaise, même en reggae, ça m'a toujours fait dégueuler.
Moi, je me suis souvent posé la question de ce qui pourrait penser les plaies. Et en fait, je ne vois pas de réponse.
J'ai effectué une dernière démarche pour mon grand-père. Faire reconnaître officiellement son statut de mort pour la France.
Par courrier reçu le 11 avril 2005 dans nos services, vous souhaitez que la date et le lieu de décès de Georges Joseph Eugène Perrache soient rectifiés.
Et à cette occasion, sur son acte de décès, j'ai encore découvert d'autres informations. Notamment qu'il aurait épousé une certaine Henriette, dont il a divorcé, avant de l'épouser à nouveau quelques années après. Bon, enfin, c'est une autre histoire.
Au vu des documents que vous avez transmis, j'ai l'honneur de vous faire savoir que les modifications ont été effectuées. Ces corrections seront portées sur le mémorial de la guerre d'Algérie, situé quai Branly à Paris.
Cette histoire n'est pas terminée. Depuis 2001, sur le pont Saint-Michel, à quelques pas de la préfecture de police, on peut lire une toute petite plaque.
À la mémoire des nombreux Algériens tués lors de la sanglante répression de la manifestation pacifique du 17 octobre 1961.
Voilà, c'est ce que dit le marbre. Mais 40 ans plus tôt, quelques jours après la manifestation du 17 octobre 1961, exactement au même endroit, on pouvait lire une autre inscription, peinte à la hâte sur la pierre grise du pont.
Ici, on noie les Algériens.
Juste en face de la préfecture.
On noie les Algériens.
Il a rapidement été effacé.
Les Algériens.
Il n'en reste qu'une photo.
Rien.
Prise pour l'éternité par Jean Texier. Quand j'étais petit, j'ai pris très peu de claques. Trop peu de claques, diraient certains. Depuis, je me suis bien rattrapé. La vie m'a balancé mon lot de gifles, de torgnoles, de tataouines, j'en passe et des mandales. Mais j'ai jamais pris autant de claques, ni aussi violentes, que depuis que je me suis penché sur l'histoire de mon grand-père. Des mois de recherche, des rencontres improbables, et des heures de lecture à compter les morts dans les deux camps. À voir et entendre les horreurs commises de part et d'autre, la torture, les massacres et les plaies qui restent béantes 60 ans après.
Arte Radio. .com.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. On espère que cette émission vous a plu, que voilà, cette nouvelle forme aussi sur notre antenne de production vous plaît. N'hésitez pas à réagir, à nous faire part de vos commentaires. Rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle série que nous allons découvrir. Une série autour des braqueurs, des témoignages de braqueurs. Braqueur repenti, mais vous verrez, c'est un documentaire de Pascal Griello, produite par arteradio.com en partenariat avec Slate. Donc rendez-vous la semaine prochaine, à bientôt.